La première lettre de Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 10 seulement pour notre méditation de ce jour. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Au nom de Jésus. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que, grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Amen. La verticalité de Dieu. S'il y a quelque chose qui a été un concept, qui a été le plus galvaudé sous ce soleil, c'est l'usage et la compréhension du mot « amour ». Tout le monde utilise ce mot comme ils le veulent. Et en écoutant les gens parler à travers même les films, les réseaux sociaux surtout, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, j'adore. Des cœurs, mais... J'ai même l'impression que ce mot a beaucoup perdu sa valeur. Plus on en a parlé, plus la valeur de ce mot, le mot est devenu vide. On entend par exemple parler, oui, mais tout le monde a sa façon d'aimer. Voilà. Par conséquent, comment alors définir l'amour de Dieu? Essayez de comprendre cet amour de Dieu à partir de nos concepts humains. Nous tomberons dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire essayer de comprendre Dieu à partir de notre façon d'aimer. Et alors là, l'amour de Dieu ne sera plus dans son sens réel. Et pourtant, l'amour que nous, êtres humains, nous pouvons comprendre, c'est un amour du type horizontal. Nous ne connaissons pas ce que c'est que l'amour vertical. Tandis que l'amour de Dieu, elle est verticale. Elle provient de lui, puisque Dieu est transcendant. Notre texte va justement à l'opposé de ce que nous avons dit précédemment, comme quoi tout le monde a sa propre manière d'aimer. Jean explique clairement dans ce texte que pour aimer les uns les autres, Dieu ne nous demande pas de se débrouiller par nous-mêmes pour dire « fais ce que tu peux » avec nos moyens limités, parce qu'il serait même impossible pour un être humain d'aimer. L'amour ne vient pas de l'homme. Car en réalité, l'homme avec grand H ne sait pas aimer. Moi, je ne sais pas aimer. Toi, tu ne sais pas aimer, même si tu te vantes que tu as de l'amour pour quelqu'un. Nous sommes des êtres égoïstes, c'est-à-dire privilégier son intérêt propre aux dépens du reste du monde, et à la fois égocentrique. Ce sont deux choses différentes. Nous sommes à la fois égoïstes, là vous connaissez bien ce que ça veut dire, égocentrique, c'est-à-dire à ramener tout à soi. Et dans les deux, il y a le radical, l'ego, c'est le péché originel, le moi. Avec le jeu de mots, moi, maladie orgueilleuse, incurable. Alors comment comprendre ce texte? Dans un premier temps, Jean dit « celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». Mais il faut savoir que dans le langage johannique, c'est-à-dire le langage de Jean, le verbe « connaître » dépasse le sens de la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît Dieu à travers Internet, à travers les livres, à travers ses études en théologie ou à travers son catéchisme. Ce n'est pas ça, connaître Dieu. Mais ça exprime une relation qui donne naissance à une vie. Co-relation et naître. C'est comme deux personnes qui s'aiment, ils s'unissent et ils donnent une vie. Voilà, ça veut dire connaître. Ce n'est pas intellectuel, c'est vraiment une relation intime qui crée une vie. Cela veut dire que par le biais de notre union, de notre relation avec Dieu, seulement par cette union à Dieu, que nous puisons la force d'aimer les autres. Si l'amour que nous manifestons aux autres vient juste de notre gentillesse, tout le monde peut le faire. L'amour, ce n'est pas la gentillesse. L'amour, ce n'est pas la libéralité. L'amour, ce n'est pas le fait de donner de l'argent aux pauvres. L'amour, ce n'est pas de dire seulement bonjour aux gens. Tout le monde le fait, même les incroyants. Et parfois même, ces personnes qu'on nous disant païens, ils sont plus gentils que les chrétiens. C'est un peu malheureux de le dire, mais il faut l'avouer. Mais nous allons aimer avec l'amour de Dieu, et je mets en majuscule le mot « avec ». Nous allons aimer avec l'amour de Dieu et non pas par notre amour. Dans un deuxième temps, Jean élabore un peu plus comment est cet amour de Dieu. Donc il va le définir, il va rendre la chose plus précise. Il dit ceci, « Le Père envoie son Fils unique. » Il n'en a pas deux. S'il avait 12 fils, on peut dire « Oui, mais bon, ce n'est pas encore grave, il en a encore 11. » Il n'a qu'un seul. Et ce Fils qu'il dit « Voici mon bien-aimé », il l'a donné. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'initiative vient de Dieu et non de nous. C'est pour ça que l'amour, elle est verticale et qui vient d'en haut. C'est Dieu qui a décidé. Nous n'existions pas encore et Dieu avait déjà dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, ce qu'on appelle le proto-évangile, la descendance de cette femme va écraser ta tête. Il annonce déjà que son fils viendra. Et pourtant, nous n'étions pas encore là. Voilà, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas l'être humain qui cherchait Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Or, nous, ce que nous entendons aujourd'hui, cherche Dieu, mais on ne peut pas chercher Dieu. C'est Dieu qui se met en route. Adam, où es-tu ? Si vous lisez Genèse, c'est Dieu qui a cherché dans le jardin, mais il est où, Adam ? Il se cache. Si Dieu attendait qu'Adam revienne à lui, ça n'arrivera jamais. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu t'a cherché là où tu te cachais dans ta vie. Tu te caches derrière ton travail. Tu te caches derrière ton argent. Tu te caches derrière ta jeunesse. Tu te caches derrière tes blessures même. C'est là que Dieu te dit, où es-tu ? C'est Dieu qui va à l'encontre de l'homme et qui va à sa recherche. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui descend. Tous les dieux qui existent sur cette terre, c'est à l'homme d'aller vers ce Dieu. Tu dois amener des sacrifices, des offrandes devant un rocher, tu dois te courber, tu dois mettre de l'huile sur le rocher, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est-à-dire que c'est à l'homme d'aller vers le Dieu. Seul notre Dieu, c'est lui qui vient vers l'homme. Et rappelons-nous de la fameuse question « Adam, où es-tu ? » C'est Dieu qui se démêle et qui se met en route. Oui, Dieu qui se lève de son trône et qui décide de descendre. Voilà la notion de la verticalité en question dans notre thématique d'aujourd'hui. La notion de l'amour entre Dieu et l'homme est complètement différente. Notre amour à nous dépend toujours de ce que l'autre peut offrir, n'est-ce pas ? Ou peut donner. Souvent, on entend « Est-ce que cet homme ou cette femme est fait pour moi ?» Et derrière cette idée « est fait pour moi », c'est-à-dire « Qu'est-ce que moi je gagne derrière ? Qu'est-ce que j'attends d'elle ou de lui ?» Vous voyez, c'est ça l'amour de l'homme. Sa beauté, son intelligence, son charme, son humour ou autre. Il y a toujours un « parce que » mais caché. C'est-à-dire, il y a d'abord quelque chose en toi qui m'intéresse, dont j'en ai besoin, et après je te dis, oui, j'ai de l'amour pour toi. Et qu'on le veuille ou non, notre amour sera toujours intéressé, quelque part. En revanche, pour ce qui est de l'amour de Dieu, il n'y a rien chez nous qui peut pousser Dieu à nous aimer, rien. Qu'est-ce qu'il y a chez nous qui pourrait pousser Dieu à nous aimer ? Rien. Il a tout. Il n'attend rien de toi. Au contraire, il donne. Écoutons ce que Paul dit dans son épître aux Romains, Romains chapitre 5, versets 7 et 8. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ça veut dire, il existe des héros dans ce monde. Ils ont donné leur vie pour la patrie, c'est une cause noble. Ils ont donné leur vie pour leur famille. Ils ont donné leur vie pour leur génération. Mais personne n'a donné sa vie pour son ennemi. Personne, sauf le Christ. Avant même, il dit, Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Voilà la verticalité. L'amour que nous connaissons, c'est l'horizontalité. Qui a ses limites, vous voyez, c'est limité quand c'est vertical, c'est horizontal. Mais vertical, on ne sait pas d'où ça commence et où ça termine. Vous voyez, il n'y a aucun motif qui motiverait la décision du Père de donner son Fils unique. La seule réponse, c'est parce qu'il nous aime, point barre. Au contraire, nous sommes indignes, méprisables, détestables. Et pourtant, l'amour de Dieu le Père déborde pour l'homme qu'il a pris la décision de donner son Fils unique. C'est comme une coupe, c'est bien dit dans Psaume 23, la coupe de Dieu qui déborde. L'amour de Dieu précède toujours le nôtre. Heureusement, on l'a entendu dans l'évangile de Jean tout à l'heure. Voici l'amour, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Hein, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc si tu peux aimer, c'est parce que le Seigneur t'a aimé d'abord. On entend toujours des messages qui mettent l'accent qu'il a choisi de croire en Dieu ou de suivre Dieu. Jésus parle de ce verset que les fruits, c'est-à-dire les choses à l'extérieur qui semblent nous décrire comme étant de bonnes personnes capables de choisir la bonne vie, eh bien, il est clair maintenant que ces fruits-là ne proviennent pas de nous, ni de nos choix. Je peux dire que l'amour de Dieu nous a tellement submergés que c'est plus que normal que nous choisissons de le suivre. C'est-à-dire que nous sommes tellement imbibés de son amour que nous ne pouvons pas dire non à cet appel qu'il nous dit. Dans Luc chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Parce que tu aimes tellement ton Dieu, parce que tu l'aimes de toute ta force, et que cette force en toi qui te pousse à aimer les autres. C'est pas toi qui vas dire, allez, je vais aimer les autres. Non, c'est cette flamme que Dieu t'a donnée qui te booste et qui te fait sortir de chez toi pour aimer les autres. Donc, ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Cela signifie qu'aimer son prochain, dans le sens biblique du terme, n'est possible qu'aux personnes qui sont tombées d'amour pour son Dieu. Il est impossible d'aimer si on n'a pas été captif par l'amour de Dieu. Oui, tout le monde peut être généreux envers son voisin, mais seuls les enfants de Dieu qui pourraient aimer. Je reprends, tout le monde peut être généreux, mais seuls les enfants de Dieu peuvent aimer dans le sens biblique du terme. Et dans le livre aux Éphésiens, il y a un exemple typique qui montre cela. Paul exhorte les hommes à aimer, par exemple, leurs épouses ou leurs conjoints, pas comme ils le veulent, mais comme le Christ a aimé son Église. C'est-à-dire, la source, c'est l'amour de Jésus. En quelque sorte, il dit, il est impossible d'aimer l'autre tant que ce n'est pas l'amour du Christ qui nous anime à le faire. Alors l'appel de ce matin est clair, revenez au premier amour. C'est quoi ce premier amour? L'amour de Dieu. Notre amour, elle est secondaire. Le premier amour, c'est le fait d'être submergé par cet amour. Contemplez cet amour de Dieu. Et quand vous comprendrez comment Dieu vous a aimé, vous saurez comment aimer les autres. Amen.